Chapitre 11. Qu'est-ce ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Demanda Armitage, comme le garçon les installait à sa table au XXe siècle. C'était le plus petit et le plus coûteux parmi les restaurants flottants installés sur un petit lac non loin de l'intercontinental. Qu'est-ce frissonnait. Bruce n'avait rien dit des effets secondaires. Il essaya de saisir un verre d'eau glacée, mais ses mains tremblaient. Un truc que j'ai dû manger, peut-être. Je veux vous faire examiner par un toubib, dit Armitage. Juste une réaction de mon histamine, mentit Case. Ça m'arrive quand je voyage, après avoir mangé des trucs différents des fois. Armitage portait un costume sombre, trop habillé pour l'endroit, et une chemise de soie blanche. Son bracelet d'or cliqueta lorsqu'il leva son verre pour y tremper les lèvres. « J'ai commandé pour vous, » annonça-t-il. Armitage et Molly mangèrent en silence, tandis que Case découpait en tremblant son steak, le réduisant en petites bouchées qu'il balada dans la sauce épaisse pour, en fin de compte, les abandonner sans y toucher. « Bon Dieu !» dit Molly, une fois son assiette vide. « Passe-moi ça. Tu sais combien ça coûte ?» Elle prit son assiette. « Ils doivent élever un animal entier pendant des années et le tuer ensuite. C'est pas de la viande de cuve. » Elle planta sa fourchette dans une bouchée qu'elle mâcha goulûment. « Pas faim !» parvint à dire Case. Il avait la cervelle complètement cramée. « Non, décida-t-il. On l'avait jeté dans l'huile bouillante, puis abandonné là, et la graisse avait refroidi. Une épaisse graisse grise qui s'était figée sur les lobes ridés, striée d'éclairs de douleur pourpre verdâtre. « T'as l'air dans un état franchement lamentable, » remarqua Molly avec entrain. Case tenta du vin. Le contre-coup de la bêta-phénithélamine lui donnait un arrière-goût de teinture d'iode. Les lumières s'atténuèrent. Le restaurant XXe siècle, annonça une voix désincarnée, avec un fort accent de la conurbe, est fier de vous présenter le cabaret holographique de Monsieur Peter Riviera. Maigres applaudissements aux autres tables. Un garçon alluma une unique chandelle qu'il posa au milieu de leur table avant de se mettre à débarrasser. Bientôt, une douzaine de bougies vacillaient sur chacune des tables du restaurant, tandis qu'étaient servies des boissons. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Case Armitage, qui ne répondit rien. Molly se curait les dents du bout d'un ongle bordeaux. « Bonsoir !» dit Riviera en s'avançant sur une petite scène tout au bout de la salle. Case cligna des yeux. Dans son malaise, il n'avait même pas remarqué la scène. Il n'avait pas vu non plus d'où Riviera était sorti. Son embarras s'accrut. Au début, il supposa que l'homme était illuminé par un projecteur. Riviera scintillait. La lumière collait à lui comme une seconde peau, illuminait les tentures sombres derrière la scène. Il était en train de projeter. Riviera sourit. Il portait un smoking blanc. À son revers, des chardons bleus brûlaient dans les profondeurs d'un œillet noir. Ses ongles jetèrent des éclairs lorsqu'il leva la main dans un geste de salut qui embrassait son auditoire. Case entendait le clapotis des eaux profondes léchant les flancs du restaurant. « Ce soir, » dit Riviera, une lueur dans ses grands yeux brillants, « j'aimerais vous présenter un travail complet, un numéro entièrement nouveau. » Un froid rubis de lumière se forma dans la paume de sa main droite levée. Il le laissa tomber. Une colombe grise s'éleva du point d'impact et disparut dans l'ombre à tire-d'aile. Quelqu'un siffla, nouveaux applaudissements. « Le titre de l'œuvre est « La poupée ». » Riviera baissa les mains. « Je voudrais dédier cette première de ce soir à Dame 3 Jeanne, Marie-France Tessier Ashpool. » Vague d'applaudissements polis. Comme il s'éteignait, les yeux de Riviera semblèrent avoir trouvé leur table. Il ajouta, « ainsi qu'à une autre dame. » Les lumières du restaurant s'éteignirent complètement durant quelques secondes pour ne laisser plus subsister que la lueur des chandelles. L'auréole holographique de Riviera s'était atténuée avec la lumière, mais Case pouvait toujours le distinguer, debout, la tête penchée. Des traits de lumière pâle commencèrent à se former, des verticales et des horizontales, dessinant un cube ouvert encadrant la scène. L'éclairage de la salle était revenu lentement, Mais la charpente, en serrant la Seine, aurait aussi bien pu avoir été bâtie en rayons de lune gelée. La tête penchée, les yeux clos, les bras rigides à ses côtés, Riviera semblait frémir de concentration. Soudain, le cube spectral se remplit, devint une pièce privée de son quatrième mur, permettant ainsi au spectateur d'en voir le contenu. Riviera parut se relaxer légèrement. Il releva la tête mais garda les yeux clos. « J'ai toujours vécu dans cette pièce, dit-il. Je serais incapable de me souvenir d'avoir vécu dans une quelconque autre pièce. » Ces murs étaient couleur de plâtre jauni. Elle contenait deux éléments de mobilier. L'un était une banale chaise de bois, l'autre un lit de fer peint en blanc. La peinture s'en était écaillée et cloquée, révélant le fer noir. Le matelas était nu. Toile tachée, à rayures marron délavées. Une ampoule unique pendait au-dessus du lit, au bout d'un fil noir torsadé. Kays pouvait distinguer l'épaisse couche de poussière sur la courbe supérieure de l'ampoule. Riviera ouvrit les yeux. « J'ai toujours été seul dans cette pièce, toujours. » Il s'assit sur la chaise face au lit. Les chardons bleus brûlaient toujours au cœur de la fleur noire à son revers. « J'ignore quand j'ai commencé à rêver d'elle, dit-il. Mais je me souviens qu'au tout début, elle n'était qu'une brume, une ombre. » Il y avait quelque chose sur le lit. Kays cligna les paupières. Disparue. Je ne pouvais pratiquement pas la retenir en esprit. Mais j'avais envie de la retenir. La tenir et plus encore. Sa voix portait à merveille dans le silence de la salle de restaurant. Cliquetis de la glace sur le bord d'un verre. Rire d'un spectateur. Un autre chuchota une question en japonais. Je décidai que si j'étais capable de visualiser une partie quelconque d'elle, rien qu'une petite partie, je pourrais voir cette partie parfaitement dans le plus infime détail. Une main féminine reposait à présent sur le matelas, paume ouverte, pâle doigt blanc. Riviera se pencha, saisit la main et se mit à la caresser avec douceur. Les doigts bougèrent. Riviera porta la main à ses lèvres et se mit à lui lécher le bout des doigts. Les angles étaient vernis en bordeaux. Une main voyait Kays, mais une main tranchée. La peau se rabattait en douceur, lisse et sans marque. Lui revint le souvenir d'un losange tatoué de chair cultivé en cuve dans la vitrine d'une boutique de chirurgie sur Ninsei. Riviera tenait toujours la main contre ses lèvres. Il en léchait la paume. Les doigts hasardèrent une caresse sur son visage. Mais voici qu'à présent, une seconde main était posée sur le lit. Lorsque Riviera voulut la saisir, les doigts de la première s'étaient déjà noués autour de son poignet, bracelet de chair et d'os. Le numéro se déroulait avec sa propre logique interne surréaliste. Les bras apparurent ensuite, les pieds, les jambes. Les jambes étaient superbes. Kays avait la migraine, la gorge sèche, il but le reste de son vin. Riviera était allongée sur le lit maintenant, nue. Ses vêtements avaient fait partie de la projection, mais Kays était incapable de se rappeler les avoir vus s'évanouir. La fleur noire gisait au pied du lit, bouillonnant toujours du même feu intérieur bleu. Puis le torse se forma, à mesure que Riviera le suscitait par ses caresses, blanc, sans tête et parfait, luisant à peine d'une infime pellicule de sueur. Le corps de Molly. Kays regarda bouche bée. Mais ce n'était pas Molly. C'était Molly telle que Riviera se l'imaginait. Les seins n'allaient pas. Les mamelons étaient trop grands, trop sombres. Riviera et le torse démembré se tortillaient sur le lit, tandis que rampaient sur eux les mains avec leurs ongles éclatants. Le lit était recouvert à présent d'une épaisse couche de dentelle jaunie et pourrissante qui s'effritait au moindre contact. Un nuage de grains de poussière bouillonnait autour de Riviera, et des membres qui se tordaient, des mains qui filaient, pinçaient, caressaient. Kays jeta un œil vers Molly. Son visage était impassible. Les couleurs de la projection de Riviera se gonflaient et tournaient dans ses miroirs. Armitage était penché vers l'avant, main serrée autour du pied de son verre à vin, fixant de ses yeux pâles la scène, la pièce illuminée. À présent, torse et membres s'étaient réunis, et Riviera frissonna. La tête était là, l'image complète. Le visage de Molly avec le vif argent lisse qui noyait son regard. Riviera et l'image de Molly commencèrent à s'accoupler avec une ardeur renouvelée. Puis l'image étendit avec lenteur une main crochue et fit saillir ses cinq lames. Et dans un geste d'une lenteur délibérée, comme dans un rêve, elle se mit à lacérer le dos nu de Riviera. Kaze eut le temps d'apercevoir l'arête d'une vertèbre avant de se lever pour gagner en titubant la porte. Penché sur une balustrade en bois de rose, il vomit dans les eaux calmes du lac. L'impression d'un étau refermé autour de sa tête s'était maintenant dissipée. Agenouillé, la joue posée contre le bois frais, il contemplait de l'autre côté des eaux profondes le halo éclatant de la rue Jules Verne. Kaze avait déjà vu ce genre de médium, du temps où il était ado, dans la Conurbe. On appelait ça rêver vrai. Il se rappelait de maigres portoricains sous les lampadaires de l'East Side, qui rêvaient vrai au rythme rapide de la salsa, rêvaient des filles de rêve qui frémissaient et tournoyaient, tandis que les spectateurs battaient des mains en mesure. Mais pour y parvenir, il avait fallu recourir à une camionnette bourrée d'électronique et un encombrant casque à trode. Ce que rêvait Riviera, vous l'aviez. Kaze hocha sa tête douloureuse et cracha dans le lac. Il pouvait deviner l'issue du numéro, le final. Il y avait une symétrie inversée. Riviera reconstitue la fille de rêve. La fille rêvée le met en pièces, avec ses mains, sang de rêve pour imbiber les dentelles pourrissantes. Viva jaillit du restaurant, applaudissements dans la salle. Kaze se releva et passa les mains sur ses vêtements, puis il pivota et regagna le XXe siècle. La chaise de Molly était vide, la scène déserte. Armitage était assis, seul, fixant toujours la scène, le pied du verre à vin encore entre ses doigts. « Où est-elle ? » demanda Kaze. « Partie, » répondit Armitage. « À ses trousses ? » ?»« Non. » Il y eut un cligne assourdi. Armitage baissa les yeux sur le verre. Sa main droite se leva, tenant le bulbe empli de vin rouge. Le pied brisé ensaillait comme une écharpe de glace. Kaze le lui ôta des mains et transvasa son contenu dans un verre à eau. « Dites-moi où elle est allée, Armitage. » Les lumières revinrent. Kaze fixa les yeux pâles, le vide total. « Elle est partie se préparer. Vous ne la reverrez plus. Vous serez ensemble durant la passe. » « Pourquoi Riviera lui a-t-il fait ça ?» Armitage se leva, rectifia les revers de sa veste de smoking. « Allez dormir un peu, Kaze. Demain à la passe ?» Armitage sourit de son sourire dénué de sens et s'éloigna vers la sortie. Kaze se massa le front et contempla la salle. Les convives se levaient. Les femmes souriaient aux plaisanteries des hommes. Il nota pour la première fois le balcon, avec les bougies qui vacillaient encore, obscure intimité. Il perçut le cliquetis de l'argenterie, des conversations assourdies. Les chandelles projetaient au plafond des ombres dansantes. Le visage de la fille apparut aussi brusquement qu'une des projections de Riviera, main menue posée sur le bois poli de la balustrade. Elle s'inclinait, visage aux anges, lui sembla-t-il, les yeux sombres, fixés sur quelque chose au-delà de la scène. C'était un visage frappant, mais pas beau, triangulaire, pommette haute, quoique d'une certaine manière, fragile d'aspect, la bouche large et ferme, étrangement équilibrée par un nez étroit, aquilin, aux narines évasées. Et puis elle avait disparu, réintégrant l'intimité du rire et de la danse des chandelles. Lorsqu'il quitta le restaurant, il remarqua les deux jeunes Français et leur ami qui attendaient le bateau pour la rive opposée et le plus proche casino. Leur chambre était silencieuse, la mousse douce comme une plage quand la mer s'est retirée. Son sac n'était plus là. Il chercha un mot d'elle, il n'y avait rien. Plusieurs secondes s'écoulèrent avant que la scène, derrière la fenêtre, ne s'imprimât dans son esprit embrumé par la tension et la détresse. Il leva les yeux et découvrit une vue sur Desiderata, les boutiques de luxe, Gucci, Tsuyako, Hermès, Liberty. Il écarquilla les yeux, puis hocha la tête et traversa la pièce en direction d'un panneau qu'il n'avait jusque-là pas pris la peine d'examiner. Il éteignit l'hologramme et fut récompensé par l'apparition des immeubles d'habitation qui s'étageaient en terrasse sur la pente opposée. Il saisit le téléphone et l'emporta avec lui dans la fraîcheur du balcon. « Donnez-moi le numéro du Marcus Garvey, » demanda-t-il à la réception. « C'est un remorqueur immatriculé dans l'amas de Sion. » La voix de synthèse lui récita un numéro à 10 chiffres. « Monsieur, » ajouta la puce, « le matricule en question est panaméen. » « Malcolm, » répondit à la 5e sonnerie. « Yo ? Kez, tu as un modem, Malcolm ? Yo ! Sous le compas de navigation, tu sais ? Tu peux me le décrocher, mec, et le brancher sur mon Osaka, puis tu allumes ma console. C'est le bouton avec les stries. Comment va là-bas, Mac ? Ben, j'aurais besoin d'un coup de main. On y va, Mac. Je te chope le modem. » Kez perçut un faible bruit de parasite pendant que Malcolm établissait la liaison téléphonique. « Glace-moi ça, » dit-il à l'Osaka, sitôt qu'il l'entendit biper. « Vous me parlez depuis un site hautement surveillé, » avertit l'ordinateur sur un ton pincé. « Hé, merde, laisse tomber la glace. Pas de glace. Accède au construct. Dixie ? Hé, Kez ! » Dixie, le très plat, parlait via la puce vocale de l'Osaka, tant pis pour l'accent soigneusement élaboré. « 10, tu vas tâcher de te glisser ici pour me retrouver quelque chose. Tu peux y aller à fond les manettes. Molly est quelque part dans le coin, et je veux savoir où. Je suis à la 355W, à l'intercontinental. Elle est également descendue ici, mais j'ignore sous quel nom. Passe par cette ligne, et craque-moi leur fichier. Sitôt dit, sitôt fait, dit le tréplat. Kez entendit le bruit blanc de l'invasion, il sourit. Voilà qui est fait. Rose Colodny. Rendu ses clés. Me faudra quelques minutes pour brouiller leur réseau de sécurité, sans aller trop profond, pour ne pas être repéré. Vas-y. Le téléphone siffla et cliqueta, traduisant les efforts du construct. Kez le rapporta dans la chambre et posa le combiné sur la couche en mousse. Puis il se rendit dans la salle de bain pour se brosser les dents. Il en ressortait lorsque s'alluma le moniteur sur le complexe audiovisuel Braun de la chambre. Une pop star japonaise était adossée contre des coussins métalliques. Une journaliste, invisible, lui posait une question en allemand. Kez fixa l'écran. L'image fut déchirée par des zébrures de parasites bleus. « Alors, Kez, mon chou, tu perds la tête, mon gars ?» La voix était lente, familière. Le mur de verre du balcon s'illumina, révélant sa vue de désidérata, mais la scène de rue se brouilla, se déforma, devint l'intérieur de la jarre de thé, à Chiba, salle vide, néon rouge, répliqué jusqu'à l'infini, déchiré sur les glaces des murs. L'onizone s'avançait, grand et cadavérique, progressant avec cette lente grâce sous-marine, induite par l'usage de sa drogue. Il était seul au milieu des tables carrées, mains enfoncées dans les poches de son pantalon en cuir de requin gris. « Franchement, mec, tu m'as l'air vraiment décalqué. » La voix provenait des enceintes brunes. « Muet d'hiver, » dit Kez. Le Mac haussa les épaules avec langueur et sourit. « Où est Molly ? T'occupe. Toi, t'es en train de déconner ce soir, Kez. Le très plat est en train de tirer des sonnettes dans toute la zone libre. Je croyais pas que tu ferais ça, mec. Ça sort du profil. » « Alors dis-moi simplement où elle se trouve, et je le rappelle. » Zone hocha la tête. « T'arrives pas non plus à suivre la trace de tes nanas, pas vrai, Kez ? T'arrêtes pas de les paumer, d'une façon ou d'une autre. »« Je vais te faire bouffer ce truc, » dit Kez. « Non, c'est pas ton genre, mec, je le sais bien. Tu sais quoi, Kez ? Je parie que tu t'es mis en tête que c'est moi qui ai dit à Dean de liquider ta petite poulette à Chiba. » « Arrête, » fit Kez, avançant involontairement en direction de la fenêtre. « Mais c'est faux. Quoi, quelle importance ? En quoi cela revêt-il le moindre intérêt pour Monsieur Kez ? Cesse de te raconter des bobards. Je connais ta Linda, mec. Je connais toutes les Lindas. Les Lindas sont un produit générique de ma chaîne de fabrication. C'est pourquoi elle a décidé de te pigeonner ? Par amour. Pour pas que tu mouftes. L'amour, tiens. « Tu veux qu'on parle d'amour ? Elle t'aimait, Ça, je sais. Pour le peu qu'elle valait, elle t'aimait. T'as été incapable de le supporter. Elle est morte. » Le poing de Caise ricocha contre la vitre. « Te bousille pas les mains, mec. Tu vas pas tarder à devoir pianoter du clavier. » Zone s'évanouit, remplacée par la nuit de zone libre et les lumières des appartements. Le Brown s'éteignit. Sur le lit, le téléphone chevrotait avec insistance. « Caise ?» Le très plat attendait au bout du fil. « Où que t'étais passé ?»« Bon, j'ai bien trouvé, mais c'est pas grand-chose. » Le construct crépita une adresse. « Le coin est entouré d'un drôle de glacis pour une boîte de nuit. C'est tout ce que j'ai pu obtenir, sans y laisser ma carte. »« Dac !» fit Caise. « Dis à l'Osaka qu'il avertisse Maelkoum de déconnecter le modem. Et merci, 10. » Tout le plaisir est pour moi. » Il resta un long moment assis sur le lit, savourant cette nouveauté, ce trésor, la rage. « Hé, Lupus, dis donc, Kat, c'est l'ami Lupus !» Bruce se tenait tout nu, trempé, sur le seuil, les pupilles énormes. Mais on sortait juste de la douche. « Tu veux attendre ? T'en veux une ? Non, merci. Je veux plutôt un coup de main. » Il écarta le bras du jeune homme et pénétra dans la chambre. « Eh, franchement, mec, on... Va m'aider. T'es vraiment ravi de me voir, parce qu'on est des potes, d'accord ? Pas vrai ?» Bruce cligna des yeux. « Bien sûr. » Caise récita l'adresse que lui avait donnée le très plat. « Je savais bien que c'était un gangster, » lança joyeusement Kat depuis la douche. « Je prends le trick, Honda, » dit Bruce, sourire vacant. « On y va tout de suite, » avertit Caise. « Ce niveau, c'est les cabines, » indiqua Bruce, après avoir pour la huitième fois demandé à Caise de lui répéter l'adresse. Il enfourcha de nouveau le Honda. La condensation goûtait des échappements des cellules à hydrogène, tandis que la coque, en fibre de verre rouge, se balançait sur ses amorteaux chromés. « T'en as pour longtemps ?»« Peux pas dire, mais t'attendras. »« On attendra, ouais !» Il gratta sa poitrine nue. « Cette dernière partie de l'adresse, là, je pense que c'est une cabine, numéro 43. »« Tu t'y attendais, Lupus ?» Kat se dévissa le cou par-dessus l'épaule de Bruce pour regarder en l'air. Le trajet en moto lui avait séché les cheveux. « Pas vraiment, admit Caise. C'est un problème ? T'as qu'à descendre jusqu'au niveau le plus bas pour trouver la cabine de ton ami. S'il te laisse entrer, parfait. S'ils ne veulent pas te voir... » Elle haussa les épaules. Caise se tourna et descendit un escalier en spirale à volutes de fer forgé. 6 tours et il avait atteint le niveau d'une boîte de nuit. Il s'arrêta pour allumer une Ye-Ewan en parcourant les tables du regard. Zone libre avait soudain acquis un sens pour lui. Le trafic. Il pouvait en sentir la vibration dans l'air. C'était ça l'activité locale. Non plus la façade clinquante de la rue Jules Verne, mais le truc sérieux. Le commerce, la danse. La foule était mélangée. Peut-être moitié de touristes, l'autre, moitié composée de résidents des îles. « Pour descendre !» lança-t-il à un serveur qui passait. « Je voudrais descendre !» Il lui montra sa carte mémoire zone libre. Le type lui indiqua le fond de la boîte. Il passa rapidement entre les tables bondées, saisissant au passage des fragments de conversation dans une demi-douzaine de langues européennes. « Je veux une cabine !» annonça-t-il à la fille installée derrière un bureau bas, un terminal sur les genoux. « Niveau inférieur !» Il lui tendit sa carte mémoire. « Une préférence côté sexe ?» Elle passa la carte contre une plaque de verre sur le dessus de son terminal. « Féminin, » répondit-il automatiquement. « Numéro 35. Téléphonez si ça ne va pas. Vous pouvez accéder auparavant à notre menu de service particulier si vous préférez. » Elle sourit en lui restituant sa puce. Une cabine d'ascenseur s'ouvrit en coulissant derrière elle. Les lumières du couloir étaient bleues. Caise sortit de la cabine et choisit une direction au hasard. Porte numérotée. Silence feutré comme dans le hall d'une clinique de luxe. il trouva sa cabine. Il avait cherché celle de Molly. Maintenant, perplexe, il levait sa carte et venait la placer contre le senseur noir, incrusté jusque sous la plaque numérotée. Verrou magnétique. Le bruit lui rappela l'hôtel Écho. La fille s'assit dans le lit et dit quelque chose en allemand. Elle avait des yeux doux, qui ne sillaient pas, en pilotage automatique. Déconnecté par court-circuit neuronal, il sortit de la cabine à reculons et referma la porte. La porte du 43 était identique à toutes les autres. Il hésita. Le silence du couloir signifiait que les cabines étaient insonorisées. Il était vain d'essayer sa carte. Il tapota des phalanges contre le panneau de métal émaillé. Rien. Le panneau semblait absorber le son. Il posa sa carte contre la plaque noire. Les verrous cliquetèrent. Il eut l'impression qu'elle l'avait frappé avant même qu'il fût parvenu à ouvrir la porte. Il se retrouva sur les genoux, le battant d'acier contre son dos, les larmes des pouces raidis de la fille frémissant à quelques centimètres à peine de ses yeux. « Nom de Dieu !» fit-elle, le gratifiant d'une tape sur la tempe en se relevant. « T'es vraiment un con de t'amuser à ce petit jeu-là. Comment, bordel, ouvres-tu ces verrous, Caise ? Caise, hé, ça va ?» Elle se pencha sur lui. « Ma puce !» dit-il, suffoquant pour retrouver son souffle. La douleur s'épanouissait depuis sa poitrine. Elle l'aida à se relever et le fourra dans sa cabine. « T'as acheté quelqu'un en haut ?» Il fit un signe de dénégation avant de s'effondrer en travers du lit. « Inspire fort, compte, 1, 2, 3, 4, retiens ta respiration, maintenant souffle, compte. » Il se tenait l'estomac. « Tu m'as flanqué un coup de pied, » parvint-il à dire. « Ça aurait dû être plus bas. J'ai envie d'être seul. Je médite, vu ?» Elle s'assit à côté de lui. « Et je me paye un briefing. » Elle désigna un petit moniteur encastré dans le mur au pied du lit. « Muet d'hiver me parle de lumière errante. »« Où est la poupée de chair ?»« Il n'y en a pas. »« C'est le service particulier le plus cher de tous. » Elle se leva. Elle portait son pantalon de cuir et une chemise noire ample. « La passe est pour demain. » Dixit, muet d'hiver. À quoi ça rimait tout ce cinéma au restaurant? Pourquoi que tu t'es barré? Pasque, si j'étais resté, j'aurais pu tuer Riviera. Pourquoi ça? À cause de ce qu'il m'a fait, le numéro. Je piche pas. Ça, ça coûte un paquet, expliqua-t-elle en ouvrant la main droite comme si elle tenait un fruit invisible. Les cinq lames glissèrent hors de leur fourreau, puis se rétractèrent en douceur. « Ça coûte un paquet pour aller à Chiba, un paquet pour se faire opérer, un paquet pour qu'il te bidouille le système nerveux afin d'accorder les réflexes aux bidules. Tu sais comment j'ai trouvé le fric au début ? Ici. Pas ici même, mais dans une boîte identique, dans la Conurbe. C'est marrant pour commencer, parce qu'une fois qu'ils t'ont implanté la puce de déconnexion, ça paraît de l'argent gagné gratis. Tu te réveilles un peu courbattu des fois. » Mais c'est tout. Disons que tu loues ton fond. T'es pas là durant tout le temps où ça se produit. La maison fournit le logiciel pour tout ce que veut payer le client. Elle fit craquer ses phalanges. Impec, je ramassais mon fric. Le problème, c'est que la déconnexion et les circuits implantés par les cliniques de Chiba n'étaient pas compatibles. Tant et si bien que les périodes de travail commençaient à s'infiltrer, que je commençais à m'en souvenir. Mais ce n'était jamais que des mauvais rêves, et pas tous mauvais d'ailleurs. Elle sourit. Et puis ça commençait à devenir bizarre. Elle sortit de sa poche ses cigarettes et s'en alluma une. La maison découvrit ce que je faisais de mon fric. J'avais déjà fait poser les lames. Mais le délicat travail neuromoteur allait exiger encore 3 autres voyages. Pas question d'ici là que je décroche du rôle de poupée. Elle inhala, souffla un nuage de fumée qu'elle couronna de 3 ronds impeccables. En attendant, le salaud qui dirigeait la boîte, il s'était fait concocter un petit logiciel maison. Berlin, c'est le coin pour ce genre de plan, tu connais ? Gros marché pour les coups tordus, Berlin. Je n'ai jamais su qui avait écrit le programme sur lequel il m'avait branché, mais il était basé sur tous les classiques. Il savait que tu te remplumais sur leur dos, que t'étais consciente pendant que tu travaillais ? Je n'étais pas consciente. C'est comme le cyberspace, mais en blanc, argent, une odeur comme la pluie. Tu peux te voir toi-même éprouver l'orgasme. C'est pareil à une petite nova, juste à la lisière de l'espace. Seulement, j'avais commencé à me souvenir. C'était comme des rêves, si tu veux, et ils ne m'ont rien dit. Ils ont échangé le logiciel et commencé à le sous-louer sur le marché spécialisé. Elle semblait parler de très loin. Et moi, j'étais au courant, mais je me taisais. J'avais besoin de cet argent. Les rêves devenaient de pire en pire. Mais j'ai commencé alors à me rendre compte que le patron avait toute une petite clientèle pour me suivre. « Rien n'est trop bon pour Molly », qu'il disait le patron. Et il m'a refilé cette augmentation de merde. Elle hocha la tête. Ce salopard faisait payer 8 fois ce qu'il me donnait, et il croyait que je n'en savais rien. Alors, qu'est-ce qu'il faisait payer? Les mauvais rêves, les vrais. Une nuit, je rentrais tout juste de Chiba. Elle laissa tomber la cigarette, l'écrasa du talon et s'assit, adossée contre le mur. Les chirurgiens y étaient allés à fond, à ce voyage. Un truc délicat. Ils avaient sans doute perturbé la puce de déconnexion. J'ai repris conscience. J'étais avec un client. Elle enfonça les ongles profondément dans la mousse. Un sénateur, c'était. J'ai reconnu sa grosse bouille tout de suite. Nous étions tous les deux couverts de sang. On n'était pas seuls. Elle était complètement... Elle racla la plaque de mousse. Morte. Et l'autre gros salaud, il n'arrêtait pas de répéter. « Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Parce qu'on n'avait pas encore fini. Elle se mit à trembler. Alors, je suppose que j'ai donné au sénateur ce qu'il voulait réellement. Tu vois ce que je veux dire? Le tremblement cessa. Elle relâcha la mousse et fit à nouveau courir ses doigts dans ses cheveux bruns. La maison m'a mis un tueur à gages aux trousses. J'ai dû me cacher un moment. Kaise la fixa. « Alors, tu comprends. Riviera a touché un air sensible hier soir, dit-elle. Je suppose qu'il veut franchement que je le haïsse à mort, au point de me retrouver psychiquement induite à le suivre là-bas. Le suivre? Il est déjà là-haut, à Lumiérante, sur l'invitation de Lady Troidgen. Tu sais tout son baratin de dédicace. Elle était là, dans une loge privée, le genre... Kaise se souvint du visage qu'il avait aperçu. « Tu vas le tuer ?» Elle sourit, glaciale. « Il va mourir, ouais, bientôt. »« J'ai eu également droit à une visite, » dit-il. Et il lui parla de la fenêtre, trébuchant quand même au rappel de ce que le personnage de Zone avait révélé sur Linda. Elle hocha la tête. « Peut-être qu'on cherche aussi à te faire haïr quelque chose. »« Peut-être que je la hais, effectivement. » Peut-être que tu te hais toi-même. Comment c'était ? Demanda Bruce, lorsque Kaise eut regrimpé dans le Honda. Essaye un de ces jours, répondit-il en se frottant les yeux. Je t'imagine pas en mec du genre à courir après les poupées, dit Kate, l'air malheureux, en se collant avec le pouce un nouveau derme contre le poignet. Bon, on peut rentrer maintenant ? Demanda Bruce. Bien sûr. Lâche-moi rue Jules Verne du côté des bars.